Invité à la ferme de la Rochotte, le podcast qui change notre vision des choses. Chaque semaine, Fred et Carole accueillent virtuellement des invités inspirants, passionnés et passionnants qui viennent de tous les horizons pour aborder des sujets aussi variés que leur passion. La cuisine, le rock, l'élevage, le maraîchage, la spiritualité, la nature, la liste est longue. À chaque épisode, avant de commencer l'échange, Carole vous propose une méditation. Bonne méditation et bonne écoute!
Salut les copains, bon, une petite introduction avec le Scorpion, les années 70, un petit clin d'œil à mon ami Gilles Lartigot qui va faire un spécial Scorpion samedi soir, venez nombreux, ça va être super, c'est en public, il y aura plein de fans de Scorpion et bien sûr, comme toujours, Renaud Hanson et Pascal Mulot avec Gilles pour nous parler de Scorpion, venez nombreux, moi j'attends ça avec impatience. Voilà, donc ce soir, alors déjà, merci à tous d'être là, merci à tous nos abonnés de la ferme de la Rochotte. Bon, bien sûr, cette émission, elle est en public, on a beaucoup de monde là ce soir, c'est super sympa. On va faire la même chose que d'habitude. Si vous avez des choses à me demander sur notre cours laborieux de mercredi, je suis désolé, on a eu des gros problèmes. On a eu des gros problèmes avec toute la technique. Voilà, c'était une catastrophe. Mais bon, j'ai fait un petit sondage sur notre page et finalement, bah, vous avez décidé. Moi, je vous ai proposé de refaire ce live parce qu'avec Carole, bah, on s'est dit qu'il fallait qu'on le refasse. Et puis finalement, bah, vous nous avez dit tous que non, que c'était pas la peine, que c'était bien comme ça. Bon, ok. Donc, y a pas de souci. Je vais attendre la fin du sondage, c'est demain. Et si vous avez décidé qu'il fallait qu'on laisse tomber, ben on laissera tomber, sinon on le refera. Je vais vous parler simplement là, ce soir de deux, trois petits bouquins, là, sympas à lire. Alors, on va rester là sur la musique. Là. J'ai un bouquin que j'aime énormément, que j'ai là, qui est un livre sur la New Wave. Je ne sais pas si vous l'avez lu, John, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, éventuellement, je suis en train de regarder tous les gens qui sont fans de musique, là, s'ils sont là ce soir, je vois que Hervé n'est pas encore arrivé, bon, il a dû oublier, c'est un super bouquin sur la New Wave et tout, il y a des super photos parce que, bah, vous vous rappelez, hein, que c'était quand même un sacré style, hein. Tiens, là, je vous l'ouvre au pif, là, c'est vraiment un super bouquin. Mais qui date, hein, déjà, donc on y parle de tout le mouvement New Wave, c'est-à-dire la musique, et puis également le vestimentaire, et puis le style, l'esprit, tout ça, je le trouve super. Et après, pour rester dans la cuisine, j'avais envie de vous présenter ce soir deux bouquins de l'ami Gérard Dusserre. Donc Gérard Dusserre, vous savez, c'est un homme qui a fait le répertoire... des plantes qu'on trouve en Europe. Alors, il y en a 2500, si je me souviens bien. Il a fait ce livre que j'aime beaucoup, qui est le Manifeste gourmand des herbes folles. Alors, c'est un livre où il nous explique et où il nous donne quelques petites recettes pour pouvoir faire une cuisine à base de plantes que nous ramassons nous-mêmes dans la nature. Alors, Gérard, je le connais parce que je l'ai rencontré. Il est venu jusqu'à la Rochotte une fois. Et c'est quelqu'un qui m'a expliqué que pendant un peu plus de 10 ans, il s'est nourri uniquement avec ses ramasses d'herbes. C'est-à-dire que voilà, bah, il a mangé uniquement ce qu'il ramassait. Il a travaillé beaucoup pour les maisons qui font de l'homéopathie, bah, comme Boiron, tout ça. Il a fait des ramassages, voilà, pour eux. C'est un bouquin super sympa, le Manifeste gourmand des herbes folles. Je pense que vous l'aimerez. Alors, on peut l'acheter sur son site, hein. Donc, vous tapez Gérard Dusserre, hein, cerf comme le cerf avec les bois, attention, parce que s'il y a des chasseurs, là, je vais m'attirer des emmerdes. Et sinon, il a fait ses bouquins, là aussi, les plantes bio-indicatrices, il y en a, ça c'est le volume 1, celui-là, mais il y en a deux autres. Donc, ça répertorie vraiment l'intégralité de ce qu'on peut avoir en Europe. Les plantes qui sont très, très intéressantes, c'est très, très bien illustré. C'est super sympa et on sait si on peut les manger ou pas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Alors oui, je vois coucou. Bon, ça, c'est pas des questions, hein. On a Christine qui nous dit la petite touche du maître. Bon, oui, bah ça, tu sais bien, toujours. On a Pascal qui est là. Salut Pascal. On a Nicole. Bon, ça, c'est ma maman, donc c'est un petit peu normal, hein. Elle regarde à ce que son fils ne raconte pas trop de conneries, ce qui est pas le cas tout le temps. On a Mathilde qui est là. On a John. Bah oui, John. Alors, John, il dit non. Bon, ok, je ne sais plus à quoi. Donc, redis-moi, John. Et après, on a Mathilde qui nous. Voilà, eh oui. Gérard Dussert, c'est vraiment un mec super, 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 super. Donc, bah, vous n'avez rien à demander, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a super bien fait notre cours avec Carole l'autre jour. Alors, eh bien, Carole n'est pas là ce soir, mais elle est en direct. C'est comme dans Groland. C'est comme dans Groland, hein, avec Michael Cull. Donc voilà, donc nous allons rejoindre Carole en direct de sa voiture. Ouais. Alors attendez, parce qu'il faut que je vous raconte un petit truc. Dans l'émission de Gilles, il y a un de ses invités, le docteur Fouad, qui fait toujours les émissions depuis sa voiture. C'est super rigolo parce qu'il est dans le sombre tout le temps, là, un peu. Voilà. Ben, nous, c'est un petit peu ça. Alors, en direct de sa voiture, nous allons accueillir Carole qui va nous parler de rien. Eh bien, c'est à toi. Quand tu te vois sur l'écran, alors nous ne t'entendons pas. Nous n'avons pas de son. Toi, tu nous entends? Ou alors ça vient de moi? Attends que je vérifie que ça ne vienne pas de moi. Non, parce que je suis tellement malin que j'ai peut-être même coupé mon son. Hein. Alors. Non, non. Moi, j'ai du son. Alors, je ne sais pas si les autres, ils t'entendent. Moi, je ne t'entends pas. Est-ce que vous entendez, Carole? Ah, mais je sais pourquoi. Attends. Je n'arrive pas à te remettre ton volume. Eh oui, les problèmes techniques, hein, comme toujours. Hein. Bah écoute, ça, c'est fou, hein. Il veut pas me remettre ton micro là. Attends, je vais l'enlever sur tout le monde. Donc Myriam, c'est bon. Arthur, c'est bon aussi. Et Carole, on ne peut pas lui enlever son micro, lui remettre son micro. Alors pourquoi? Pourquoi? Vérifie voir que ne soit pas depuis ton appli que le micro. Ah, ça y est, ça y est! Ça y est, ça y est. Mais je ne vois pas. Est-ce que vous entendez Carole? Non, tu n'as pas de son. On t'entend pas parce que c'est recoupé là en fait. Bon, ok. Donc, on va laisser Carole se reconnecter et puis on va la reprendre là dans un moment. Eh ben, je vais vous présenter mes deux invités. Alors, on a une première invitée qui vient de très très loin. Vous allez l'entendre à son merveilleux accent. Et coucou Myriam.
Bonsoir. Chez vous, il est déjà 18 h, mais ici, il est 1 h d'après-midi.
Et voilà, vive le Québec libre, comme disait notre ami Renaud Hanson. Vive le Québec libre. Voilà. Eh oui, eh oui. Eh bien, Myriam, écoute, si tu veux nous expliquer un petit peu qui tu es.
Oui, ben, c'est une grande question. Qui suis-je? Bon, depuis que tu m'as envoyé l'invitation à assister à cette interview-là, je ne sais pas, je me disais, mais comment je vais me présenter? Tu sais, on dirait que de se définir en quelques lignes, c'est comme trop court. Il y a tellement de variables qui nous définissent. Je ne sais pas, je me décrirais comme ben, en transition en ce moment. Puis, tu vois, ça fait du lien avec le thème de rien. J'ai l'impression de rien faire depuis un an et demi. C'est comme si je sais pas, un peu comme un marécage, là. Ça, il y a de la vie, mais bientôt, il va y avoir du mouvement. Ben, par où, comment me décrire? C'est sûr, je pourrais comme tout dire, mes études, qu'est-ce que j'aime. Ben, je vais y aller avec ça. Peut-être ça fait du lien aussi avec les livres que tu as proposés tout à l'heure, là, les livres de plantes médicinales. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, tout ce qui est de l'herboristerie, aromathérapie. C'est un sujet passionnant que j'adore me nourrir puis enrichir. Et puis c'est ça. En ce moment, ben, c'est ça, je suis en transition, fait que je vais explorer ce côté-là. Je développe un petit peu aussi un côté entrepreneurial pour développer des activités autour de ça, découvrir un peu qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir. Fait que je suis vraiment dans cette phase-là de entre-deux, là. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'études, entre autres en responsabilité sociale et environnementale, en ressources humaines. Puis là, ben, aujourd'hui, là, j'arrive avec un autre côté, une autre branche, naturothérapie, puis voir qu'est-ce que je peux faire avec tout ça.
Eh bien, c'est super. Alors, on va essayer de retrouver notre envoyé super spécial à Beaune. C'est mon amour, c'est Carole. Coucou, mon amour. On t'entend. On t'entend, je crois. Si, si, si. On t'entend là.
On va laisser.
On t'entend, on t'entend, si. On t'entend,
Au
on
revoir.
t'entend. On t'entendait? Bah. Alors, attendez, je vais juste lui faire un petit message, juste pour lui dire qu'on t'entend, parce qu'elle avait préparé un super texte. Voilà, hop. Peut-être qu'elle reviendra. Alors, je vais vous présenter mon deuxième invité, c'est Arthur Lequen. Donc, Arthur Lequen, vous savez qui c'est, très certainement. Le voilà, notre Arthur. Vous savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous ai présenté ses bouquins. Voilà, le manuel du garçon boucher, un super livre qui explique un petit peu, non, qui explique vraiment énormément de choses sur la cuisine et sur ce qu'il faut faire. Voilà. Arthur, il est un petit peu scientifique, il est créateur, il est artiste, il fait beaucoup de choses. Salut Arthur.
Salut Fred et salut Myriam.
Salut Arthur.
Tu m'entends?
Ouais, on t'entend super bien. Alors Arthur, raconte-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais surtout. Bon, alors avec toi, ça va être un petit peu compliqué, mais bon.
Je fous le bordel. En fait, je regarde la cuisine un peu en biais avec un angle de vue qui est différent de celui auquel on est habitué. C'est-à-dire que je ne suis pas chef, mais je ne suis pas scientifique non plus. Je m'intéresse à la cuisine et je m'intéresse aux sciences. Et avec le mix des deux, on s'aperçoit qu'en cuisine, on a des façons de faire qu'on répète, que les chefs répètent, qu'on apprend en classe, en se prenant de CAP, qui sont complètement obsolètes et qui vont à l'encontre d'un bon résultat. Voilà. Et que là, en cuisine, en France, en fait, la gastronomie fait partie de la tradition et qu'on répète depuis des dizaines, voire des centaines d'années, des façons de faire qui avaient une raison à la base et qui n'en ont plus du tout aujourd'hui et qui font que, en répétant ces traditions, au lieu de préparer un bon plat, on prépare un plat médiocre et on y est habitué à cette médiocrité du plat. Alors que, en modifiant non pas les ingrédients, mais juste la façon de faire, très simple, on arrive à un résultat bien meilleur. C'est clair pour toi?
Très très clair, très très clair, Arthur. Bon, alors Là, tu m'as dit l'autre jour que tu étais sur un nouveau bouquin. Est-ce que tu veux qu'on en parle un peu ou est-ce que tu n'as pas envie parce que voilà, parce que c'est pas encore d'actualité?
Non, c'est pas encore d'actualité, c'est pas encore d'actualité.
D'accord,
Mais ça
d'accord.
travaille.
Bah, ouais. Alors, tu sais, on a discuté là l'autre jour tous les deux un petit peu des fonds parce que j'ai fait deux cours sur les fonds. Alors, j'ai quand même essayé de mettre un petit peu en application tout ce que j'avais lu dans tes livres et puis ce dont on a discuté là l'autre jour. Est-ce que tu peux un petit peu la bonne façon de faire un fonds et puis surtout, ce qu'il se passe lorsque l'eau arrive à ébullition, lorsque l'eau chauffe, est-ce qu'il faut mettre du sel dedans? Est-ce que... Voilà.
Alors, le fond, à la base, c'est ce qu'on appelle un déménage. C'est-à-dire que, au Moyen-Âge, on mettait un pot sur le feu et on faisait cuire, les paysans faisaient cuire ce qu'ils avaient. C'était en général des légumes racines qu'ils mettaient à cuire au départ dans de l'eau, qui se transformaient petit à petit en bouillon au fur et à mesure des cuissons, parce ils prélevaient qu'une petite partie du liquide qu'ils buvaient avec les légumes. Et puis, les cuissons se répétaient comme ça pendant des semaines et des semaines. L'idée de base des bouillons, c'était vraiment d'extraire de nutriments de ce qu'on y mettait. Parce que les légumes n'étaient pas bons, contrairement à ce qu'on imagine. Quelquefois, on y mettait un morceau de viande, mais la viande était super dure, donc on ne la mangeait pas, on la mâchouillait, puis on la balançait. Et c'est de là qu'est venu le pot-au-feu, mais on pourra en reparler plus tard. Et en fait, l'idée du bouillon, c'est vraiment une infusion, c'est-à-dire d'extraire le maximum de saveur et d'arôme d'un élément solide et de le transférer vers un liquide, qui est de l'eau à la base. Donc, il y a plusieurs choses primordiales. D'abord, c'est la qualité de l'eau, puisque c'est ce qu'on va avoir à la fin. Une eau avec un peu de goût, on retrouvera ce goût à la fin de cuisson. Ensuite, il y a la façon de découper ce qu'on va mettre à l'intérieur pour en extraire le maximum de saveur. Plus tu coupes petit, plus tu as ce qu'on appelle une surface d'échange. C'est-à-dire, imagine une carotte entière, tu as juste la forme de la carotte, tu as juste les saveurs peuvent juste passer par la surface de la carotte. Si tu la coupes en tranches épaisses, tu as un peu plus de surface. Si tu la coupes en tranches très fines, tu as beaucoup plus de surface. Si tu la coupes en tout petits cubes, tu as beaucoup plus de surface. Donc, plus tu vas couper petit, plus tu vas avoir de surface d'échange et plus ton aliment va perdre de saveur dans le liquide. Ça, c'est la première chose. Donc, ça marche avec les légumes, mais ça marche aussi avec les viandes quand tu dois faire un bouillon de viande, par exemple. Et puis après, il y a la température de chauffe. Si tu cuis trop fort, en fait, tu vas cuire tes aliments plutôt que laisser leur saveur se transférer au liquide. Donc, en général, on dit que la bonne cuisson quand il y a de la viande, c'est aux alentours de 70 degrés parce que c'est assez chaud pour que le collagène puisse fondre, commence à fondre, et c'est pas trop chaud pour que certaines protéines qui sont dans la viande commencent à coaguler. Et une fois qu'elles sont coagulées, elles vont moins bien se dissiper dans le liquide. Voilà. Donc, on est aux alentours de 70 degrés, c'est bien. 70 degrés, c'est quoi comme température? C'est quand ça commence à fumer et qu'on voit une petite bulle remonter, mais vraiment une petite bulle remonter doucement de temps en temps. Voilà. Donc, dans tous les bouillons, il faut absolument éviter le gros bouillonnement, évidemment, le petit bouillonnement, le moyen bouillonnement et le frémissement. Et faut savoir que le frémissement, moyen bouillonnement ou gros bouillonnement, c'est la même température, on est à 100 degrés. C'est juste que ça va plus vite ou moins vite, mais c'est la même rapidité. Et plus tu as de circulation, enfin, plus tu as de bulles, en fait, plus tu décroches de microparticules des aliments et plus tu troubles ton bouillon. Donc, plutôt que de. Souvent, on se dit, on va clarifier. Enfin, plutôt que d'essayer de mettre un sparadrap sur la problématique, il vaut mieux éviter d'avoir la problématique. Donc, tu cuis beaucoup plus doucement, à une température plus basse et un peu plus longtemps. Mais quand on voit souvent des recettes avec je coupe ma carotte en trois, elle est coupée beaucoup trop grosse. C'est-à-dire que pour extraire toutes les saveurs que tu peux extraire de cette carotte, si elle est coupée en trois, il va te falloir une semaine, quoi.
Oui. Oui, d'accord. Donc, c'est vrai que c'est une erreur, hein, parce que tu sais, moi, j'ai appris dans les cuisines, même avec des très, très grands chefs, hein, on faisait des fonds blancs, ce qu'on appelle des fonds blancs, avec de la volaille. On mettait des carottes entières, on mettait des grosses, grosses carottes. Alors, écoute, moi, j'ai pris l'habitude de faire mes fonds blancs avec les épluchures des légumes. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, c'est vachement bien. C'est vachement bien.
Ouais.
En fait, plus tu vas mettre de choses dedans, plus tu vas perdre de saveur. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est aussi d'avoir un volume d'eau à la base assez grand pour que les ingrédients puissent y perdre des saveurs. Si tu mets très peu d'eau, en fin de compte, cette eau va vite être chargée de saveur et tu ne pourras plus en accepter d'autres. Donc, il faut un gros volume d'eau, il faut couvrir.
Ouais.
Et ça, c'est important pour ne pas avoir d'évaporation parce que l'idée, ce n'est pas de concentrer rapidement. Tu pourras concentrer après si tu veux. C'est-à-dire que tu mettras le couvercle et tu laisseras à température, genre toujours 60, 70 degrés. Tu vas juste laisser s'évaporer doucement l'eau et tu vas concentrer en saveur et en arôme.
Donc, vous avez compris tout ça. Ça, le coup du couvercle, je ne l'ai pas dit l'autre jour. Hein. Ouais, là, je vais me faire taper
Ouais,
sur les doigts.
c'est-à-dire
Merci, Arthur.
non, mais faut couvrir quand tu le fais parce que, en fin de compte, si ça s'évapore trop vite, tu vas concentrer ton liquide en saveur et tu ne pourras plus en accepter d'autres très rapidement. Et donc, tu as une partie de tes légumes et de ta viande qui va servir à rien parce qu'elle ne pourra pas perdre de saveur à l'intérieur du liquide.
D'accord. Myriam, est-ce que tu fais de la cuisine chez toi? Oui. Moi,
Oui,
je sais déjà
puis
que.
c'est super intéressant. Ouais. Ben, depuis que j'ai mon cours de naturothérapie, j'ai commencé en septembre, puis c'est
Ouais.
beaucoup axé sur le côté alimentation, puis de comprendre tous les systèmes du corps. Puis j'ai adopté plusieurs petits changements là, dans mon alimentation, puis ça, entre autres, les bouillons de légumes, de mettre toutes mes retailles de carottes, des bouts d'oignons, tout ça. Je mets ça au congélateur. Puis à la fin de la semaine ou aux 2 semaines, je mets ça dans un bon volume d'eau, puis ça me fait un bon bouillon de légumes. Mais là, c'est intéressant de savoir qu'il faut que je mette un couvercle pour pas que l'eau devienne saturée, puis que ça puisse vraiment aller chercher les saveurs, là. C'est intéressant, ça.
Alors,
Mais
Arthur,
c'est.
est-ce que le
Pardon,
fait de...
je coupe.
Oui, ouais,
Mais
vas-y.
c'est intéressant de passer au congélateur parce que les cellules, les légumes qui sont gorgés d'eau, en fait. Comme l'eau augmente de volume à l'intérieur du légume, quand elle est au congélateur, elle va casser des fibres et on va pouvoir récupérer plus rapidement des saveurs des légumes.
Donc là, ce que tu veux dire, c'est que quand on a mis les légumes au congélateur ou la viande au congélateur, la cuisson du fond sera beaucoup plus rapide, c'est ça?
Ouais, enfin, déjà, il faut couper très finement, mais ça permet effectivement d'en sortir des saveurs rapidement. Ouais.
D'accord, ça c'est super intéressant. Donc vous avez entendu hein, là tous là. Parce que bon, là, il y a tous les élèves des cours de cuisine qui sont là. Donc, ouais, bah, vous avez entendu hein, ce qu'on vient de nous
Voilà,
expliquer là.
j'avais.
Et je crois qu'on va se refaire un petit cours sur les fonds hein, et être un petit peu plus pointu. Bah, vous allez pouvoir faire des essais aussi chez vous. Est-ce que vous avez des choses à demander à Arthur bah, pendant qu'il est là? Si vous avez des choses un petit peu, voilà, des choses que vous aimez faire et puis vous savez pas trop comment ça marche, il y a un truc que Arthur, j'aimerais bien que tu nous expliques, c'est cette histoire du sel. Alors, du sel dans les fonds, moi tu m'avais expliqué il y a des années qu'on n'en mettait pas, depuis je n'en mets plus, alors que j'avais appris qu'il fallait toujours en mettre un petit peu. Et toi, tu m'as expliqué, bah, absolument pas, parce que, voilà, parce que tu vas faire des fonds qui vont être un petit peu brouillés, un petit peu troubles. Et puis effectivement, depuis que j'en mets plus, j'ai des fonds qui sont beaucoup plus clairs.
Ouais, alors le sel, ça limite le transfert du sel dans le liquide, ça limite le transfert de saveur des ingrédients vers le liquide. Donc, il faut absolument éviter. En plus, la deuxième problématique que ça présente, c'est que si tu veux faire une réduction, tu risques d'être trop salé. Parce que
Oui.
quelle était la quantité de sel au départ. Donc ça peut te coincer dans ta réduction. Donc c'est un peu dommage. Et on ne met jamais de poivre surtout. Voilà. Ça, c'est aussi un truc primordial. Moi, je vois encore des recettes avec des fonds ou des pot-au-feu où on met des grains de poivre. En fait, on mettait du poivre à la base parce que c'était un antiseptique, comme le clou de girofle. Donc, ça permettait d'éliminer certaines bactéries. Donc, on mettait ça, même si ça n'avait pas un bon goût, mais c'était pratique. Et on continue aujourd'hui, alors qu'on a des milliards de fois moins de bactéries dans l'aliment, on continue à mettre du poivre, ce qui ne sert à rien. Le plus simple à faire, c'est juste de faire cuire un verre d'eau avec une vingtaine de grains de poivre. On fait cuire une demi-heure ou une vingtaine de minutes et puis on goûte l'eau. Ça fait tout de suite que c'est dégueulasse, quoi.
Ouais, d'accord. Oui, toi, ce que tu préconises, c'est de mettre le poivre vraiment à la fin. Hein, c'est ça?
Oui, le poivre, c'est une épice qui cuit pas, qui est complètement modifiée, je crois, à partir de 45 degrés. Enfin, ça sert à rien. Et puis, les personnes qui disent qu'elles toastent le poivre, quand elle poivre pendant la cuisson, ça marche pas non plus parce que quand tu discutes avec des gens qui travaillent sur, par exemple, sur les grains de café et qui les toastent, ils travaillent à 2 degrés, enfin, c'est extrêmement précis. On n'est pas du tout à 2 degrés près dans une poêle, quoi.
Oui, bah non. Oui, mais alors là, ça me fait rebondir sur autre chose. Dans la cuisine indienne, tu sais que on fait toujours revenir les épices ou dans de l'huile d'olive ou dans une matière grasse. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est le voilà, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça.
Ben, en fait, le gras est un peu un aspirateur à arôme. C'est-à-dire que
Ouais.
plus quand tu fais ça, en fait, tu transfères le maximum de saveur et d'arôme vers le gras. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça absorbe tout, quoi. Enfin, c'est un truc, ben, quand on
D'accord.
met du gras dans les marinades, enfin, le gras, c'est un élément primordial en cuisine. On a peur du gras, c'est dommage parce que c'est vraiment un vecteur de goût incroyable.
D'accord. Donc, alors là, j'ai une question là, que j'ai mis à l'écran. Donc, on taille dans le sens de la fibre. Je pense, Christine, que tu parles des légumes,
Ben
parce que
non.
si c'est la viande, ouais.
En fait, l'idée, il faut,
Ah non,
quand on
ouais.
taille dans le. Pardon, Christine, mais si vous taillez dans le sens de la fibre, vous alors, c'est un peu différent pour les légumes, mais pour les viandes, vous avez les fibres des viandes, vous avez du collagène dans chaque fibre, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'une fibre, c'est comme un tuyau d'arrosage, et puis vous avez chaque fibre est un tuyau d'arrosage, et puis vous avez des regroupements de fibres qui sont des groupements de tuyaux d'arrosage. Si vous coupez parallèle à ces tuyaux d'arrosage, vous avez peu d'échanges. Alors, si vous coupez perpendiculairement à la fibre, là, vous avez beaucoup d'échanges. Donc, il faut couper perpendiculairement aux fibres. Ça, c'est vraiment un truc extrêmement important.
D'accord. Et puis la torréfaction, bah, par exemple, du poivre, ça, on oublie. On est bien d'accord.
Ouais, on oublie parce que c'est. Moi, j'en ai parlé avec des torréfacteurs. C'est un truc hyper précis, sinon ça monte très vite en amertume. Enfin, voilà. C'est très particulier. Et puis, si tu pars d'un poivre à un autre, ça ne sera pas le même degré de torréfaction. Enfin, donc, et puis, tu ne
Ouais,
réduis pas ta poêle au degré près.
ok, d'accord. Une petite question de Pascal. Donc, du coup, bah, dans
Si,
une cuisson
girofle,
de
girofle.
veau. Ouais.
La girofle, c'est vachement
Oui, on
bon.
peut.
Poivre, non, parce que de toute façon, ça a pas pénétré, les saveurs du poivre n'ont pas pénétré dans les viandes, les choses comme ça. C'est pas vrai, ça rentre pas.
Ok.
Il suffit de mettre des grains de poivre sur un morceau de viande et de le laisser 2 jours au frais. Vous nettoyez, vous enlevez 1 mm, 1 mm de surface et ça n'est pas rentré à l'intérieur.
D'accord. Oui, donc en fait, on nous apprend beaucoup de bêtises dans les écoles de cuisine. Ouais, moi, c'est vrai que
Ben,
dans
c'est
mes
compliqué. En
fonds.
fait, c'est compliqué.
Oui, Arthur, vas-y, vas-y. Un petit coup de Pepsi Cola,
C'est
hein, pour
compliqué parce
toujours.
que. C'est compliqué parce que. Tu vois, dans les écoles, la cuisson par concentration, par expansion et la cuisson mixte. Hervétis, ça fait 30 ans qu'il a prouvé que c'était complètement bidon, que c'était complètement faux. Et il lui a fallu des années et des années avant de faire retirer ça du programme scolaire. Et on a encore des chefs, un chef doublement étoilé, très médiatique, qui en parlait il n'y a pas très longtemps à la télévision, en expliquant que c'était de la cuisine par expansion. Donc, on apprend des choses qui sont fausses, voilà. Mais il faut du temps avant que ça rentre dans les programmes et que ça soit modifié. Voilà.
D'accord. Et puis après, oui, mais bon.
Comme je le disais au départ, il y a ce problème de tradition. Et puis, il y a aussi ce problème assez particulier. Voilà, en France, on n'a pas. Les États-Unis sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus novateurs. En Europe,
l'Europe. Attention, Arthur, parce qu'on t'entend plus.
Là, tu m'entends?
Ouais.
Aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe du Nord, au Japon, ils sont beaucoup plus en avance que nous, Français, sur les techniques de cuisson, enfin sur la pratique de la cuisine. Nous, on répète des choses anciennes, mais qui avaient des raisons d'être il y a des dizaines, des centaines d'années, qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Ouais. Et ces choses anciennes, elles sont transmises aussi en partie par les cours, mais surtout par les chefs. Et donc, ouais. On ne progresse pas du tout. Alors que tu vois la cuisine en Europe, les mecs, ce sont des brutes atomiques, quoi.
Ouais. Alors, on a fait un petit cours mercredi sur le gui. Myriam, est-ce que tu sais ce que c'est que le gui là-bas dans ton Québec?
Oui. Puis en plus, on l'a vu en cours, là, dans mon cours de naturothérapie. Justement, c'est une très belle alternative pour enlever toutes les matières laitières du beurre. Puis, même là, le mot beurre, je suis sûre que je le prononce. Les Français, moi, à chaque fois, je me faisais reprendre quand j'étais en France pour le mot beurre. Mais c'est une merveilleuse technique. Puis c'est tellement bon, ça garde le goût du beurre. Puis, ça ne rôtit pas dans la poêle quand on fait cuire. Là. Moins, ça ne crée pas tout ce qui est glycotoxine, puis ça change la molécule ou la consistance des aliments et tout ça. J'aime beaucoup en faire.
Est-ce que tu en fais, toi, chez toi? Oui, oui, tu en fais.
Ouais, entre le ghee, là, justement, on est dû pour en refaire, mais on alterne entre le ghee et l'huile de coco pour la cuisson. Ouais. Là, c'est vraiment les deux qui servent. Ouais.
Et en plus, dans le ghee, il y a quand même une dimension aussi un petit peu spirituelle. Ça nous intéresse aussi, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, Arthur.
Ouais, ouais.
Vas-y, Myriam, vas-y.
Oui, bien tout ça, je me souviens que Carole n'avait parlé quand on était allé chez vous, mais j'ai pas approfondi nécessairement ce côté-là pour le ghee. Mais je sais que c'est comme tout un processus limite initiatique là, de préparer le ghee, prendre le temps. Ben dans le fond, moi, ce que j'ai retenu, c'est ça, de prendre le temps, tu mets tes livres de beurre à fondre, tu mets tout ça sur un feu très doux. Puis au fur et à mesure, tu enlèves l'écume qui se forme. Et puis, dans le fond, c'est de revenir en conscience à préparer quelque chose qui va nourrir notre corps. Puis, c'est ce que j'ai retenu, là.
C'est ça. C'est exactement la base. Alors, Arthur, le ghee. Ah là là, ça le laisse pensif. Il ne dit plus rien.
Non, mais le ghee, c'est canon. Hein. Le ghee, tu peux même faire des frites dedans, quoi. Je veux dire. Le point de fumée est super élevé, c'est du bon gras, ça se conserve à la température ambiante, ça a plein d'avantages.
Donc, on est bien d'accord que le ghee, moi, j'ai regardé un petit peu de tous les côtés. Moi, je suis intolérant au lactose. On est bien d'accord que dans le ghee, du lactose, il n'y en a plus.
Ben, normalement, non.
Ça, c'est si tu l'as bien fait.
Voilà.
Voilà, c'est si tu l'as bien fait.
Donc, tu laisses Carole faire le ghee, et puis si tu es malade, tu la punis. Voilà.
Et donc, dans le ghee, il y a des oméga 3, il y a du phosphore, il y a de la vitamine A, E, D. Donc, beaucoup de choses quand même super intéressantes. En médecine ayurvédique, c'est utilisé pour nettoyer. En fait, ça nettoie de la bouche jusqu'à l'anus. Hein. C'est ce qu'on nous explique. C'est anti-inflammatoire. Arthur, est-ce que c'est quelque chose que tu as un petit peu étudié ou est-ce que c'est quelque chose qui sera peut-être dans ton prochain bouquin?
En fait, non, je ne l'ai pas étudié. J'ai pas fait vraiment de recherche dessus, mais en fait, moi, je pars que des recherches scientifiques. Donc, s'il y a pas, si je trouve, si je tombe pas sur les recettes scientifiques, enfin, sur les recherches scientifiques, je m'avance pas. Voilà. J'ai pas de,
D'accord.
j'ai pas d'avis sans qu'elle soit appuyée
Ouais.
par la science.
Ok. Oui, ok. Oui, bah c'est ce qui est intéressant dans tes bouquins d'ailleurs. On a Christine qui nous demande ce que c'est que le gui. Myriam, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est que le gui?
Oui, en fait, c'est du beurre clarifié qu'on pourrait appeler. Il s'agit de prendre du beurre, là, du beurre tout simple qu'on achète au supermarché, mettre ça à feu très doux dans une poêlonne. C'est un petit chaudron ou je ne sais pas trop, là, même chaudron. Donc, mettre le beurre là-dedans à feu très doux, puis ça fond doucement. Puis tranquillement, à un moment donné, la matière laitière va remonter à la surface. Puis au fur et à mesure, on écume ce qui remonte. Puis ça, c'est plus bon, là, c'est la matière laitière, donc on peut l'acheter. Et ce qui va rester là, après quelques heures, là, mettons, ça dépend de la quantité qu'on met, là, mais ça prend quelques heures quand même. Enlever ça, et puis ensuite, ça va rester un liquide, là, une huile toute claire. Puis ça, c'est le beurre clarifié qui est excellent pour la cuisson, autant que ce soit des remèdes ayurvédiques ou plein d'utilisation, là.
Voilà, Christine, est-ce qu'on a bien répondu à ta question? Alors, moi, je préciserais juste qu'on le laisse après un petit peu cuire pour l'amener jusqu'à un léger goût de noisette. Léger, léger.
Ah oui, intéressant ça.
Ouais. Arthur, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, c'est vachement bien. En fait, le beurre, on peut jouer avec. Hein. C'est-à-dire que même dans une hollandaise ou bernaise, tu peux mettre, si tu mets du beurre, tu peux faire monter un peu en température avant et lui donner un petit goût de noisette. D'ailleurs,
Ouais,
c'est
mais je trouve.
intéressant aussi de faire une hollandaise qui tranche et puis ensuite tu la montes, quoi. Et elle tranche et tu fais un petit
Alors,
peu
explique-nous
sur le
ça.
beurre et c'est. Tu la remontes. Ben en fait,
Explique-nous
quand
ça.
tu chauffes trop ta hollandaise,
Ouais.
quand tu es en train de monter ta hollandaise et que tu chauffes trop en température, les gras et le jaune se dissocient, mais souvent on pense qu'elle est foutue. Il suffit de mettre de côté le corps gras, par exemple, dans un petit bol et de rajouter une cuillerée à café d'eau et de recommencer à battre tout doucement et on va pouvoir remonter la hollandaise. Et avec hervétisme, je crois qu'on avait réussi à dissocier et à remonter cette fois une hollandaise. Et on s'était arrêté là.
Ah ouais, ok. Ouais, parce qu'à la fin, si tu finis par mettre beaucoup trop d'eau, bon, ouais, ça devient un petit peu plus
Mais ce...
liquide, non?
Ouais, sauf que l'eau, quand tu continues la cuisson, l'eau s'évapore quand même.
Ouais, c'est vrai.
Donc,
Mais c'est
tu vois,
vrai,
même
ouais.
si tu as rajouté, par exemple, 10 cuillères à soupe, 10
Ouais.
cuillères à soupe, à la fin, il t'en reste pas 10, quoi. Mais
Non.
tu
Alors,
peux
ça.
remonter une hollandaise et trancher, c'est vachement facile. Et c'est vrai que ça a changé le goût, qui était différent de la hollandaise classique, parce que comme on avait chauffé fortement pour forcer le truc, le beurre est devenu un peu noisette, mais c'était assez étonnant, c'était bon.
Alors, vous savez, les amis, que ça marche aussi avec une mayonnaise, hein, parce que bah, la mayonnaise, de temps en temps, elle tranche. Donc, elle tranche, ça veut dire qu'on a l'huile qui remonte et puis toute la matière qui est en bas. Ça arrive des fois quand on la met dans le frigo, hein, si vous l'avez fait avec une huile qui fige, bah, quand vous la mettez dans le frigo, quand vous la ressortez, hop, là, vous la mélangez et ça fait une espèce de soupe. Il suffit de mettre juste un petit peu d'eau dans un autre bol et puis. Avec un petit fouet, vous mélangez tout doucement, et ça remonte, voilà, bah, comme par magie. Hein. Et vous pouvez même rajouter de l'huile hein, après dedans, et puis la monter, la monter, la monter. Arthur, on est bien d'accord que quand on monte une hollandaise ou une mayonnaise, on peut la monter bah, presque jusqu'à l'infini.
Je ne sais pas jusqu'où. Hervétis avait fait l'essai. Je crois qu'avec un jaune d'œuf, il avait pu monter jusqu'à une quinzaine de litres d'huile.
Ouais, c'est ça. Alors, on a Christine qui nous dit, idem avec la vinaigrette. Et attention, non, parce que la vinaigrette, on est dans une émulsion qui est instable. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agent émulsifiant dedans.
Ouais,
Arthur?
C'est-à-dire que la hollandaise et la mayonnaise, c'est un mélange d'eau et de corps gras qui ne peuvent pas se mélanger. Et quand on bat, en fait, on divise et le corps gras et l'eau en petites bulles. Et plus on bat, plus on casse les bulles, plus elles deviennent petites. Et plus elles commencent à s'accrocher les unes aux autres. Et on commence à avoir une densité. Elles se tiennent les unes aux autres fortement. Pour la hollandaise et la béarnaise, c'est un peu différent parce qu'on a une coagulation du jaune d'œuf. Et pour la vinaigrette, par exemple, si on met de la moutarde, c'est hyper facile à la tenir. Elle tient toute seule, quoi, comme une mayonnaise. Sans moutarde, on a beaucoup plus de mal à faire tenir le gras. Voilà.
Mais c'est meilleur sans la moutarde.
Ouais, c'est différent. C'est comme la mayonnaise, c'est sans moutarde. Hein.
Ouais. Mon petit Arthur, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu.
Sinon, ça s'appelle une sauce rémoulade, hein. Ça, c'est...
Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour le céleri. J'aimerais bien qu'on aborde un petit peu le sujet du sel sur la viande et puis sur les poissons et tout ça. Je me souviens quand on s'est rencontrés, quand tu as fait ton premier bouquin là. Attends, je vais le mettre là pour que voilà le manuel du garçon boucher. Ce bouquin-là, tu m'avais expliqué un petit peu ce qui se passait quand on mettait du sel sur une viande 24 heures avant. Ça, je l'ai expliqué dans mes cours de cuisine parce que je pense que c'est quelque chose qui change vraiment la donne. C'est une des choses les plus impressionnantes, les plus importantes que j'ai apprises dans ma vie. C'est toi qui me l'as apprise. Et écoute, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma cuisine, ma façon de faire. Et il y a beaucoup de chefs également à qui j'ai expliqué ça et puis qui le font et puis qui m'ont dit mais c'est un truc de fou. Donc qu'est-ce qui se passe exactement lorsqu'on met par exemple du sel sur une volaille 24 heures avant? Nous on les sale 24 heures avant, mais des fois plus.
Alors, c'est-à-dire que d'abord, on a un a priori sur le sel et on entend des histoires. Attention, le sel va faire sortir tout le jus ou tout le sang. Alors d'abord, il fait sortir effectivement, on pose du sel sur une viande avant qu'il puisse se dissoudre et il passe du temps, il absorbe un petit peu d'eau contenue dans la viande, mais c'est très peu en fin de compte. Et le sel se dissout au contact de cette eau, ce qui crée une petite saumure qui ensuite est réabsorbée par la viande et le sel commence à pénétrer en profondeur. La vitesse de pénétration du sel dans de la viande, c'est extrêmement lent. C'est-à-dire que dans une côte de bœuf, c'est à peu près 1 mm par heure. C'est-à-dire que quand on voit les gens qui salent leur viande, une côte de bœuf ou un rôti, juste avant la cuisson, ça ne sert strictement à rien. Enfin, ça ne rentre pas dans la viande pendant le temps de la cuisson. Quoi. Mais quand on sale longtemps avant, le sel a le temps de pénétrer en profondeur. Et il faut savoir qu'à la chaleur, les protéines se tordent un petit peu comme un ressort. Et en se tordant, elles expulsent une partie du jus et du liquide qui est contenu dans la viande. Quand le sel a pénétré à l'intérieur des viandes, il modifie la structure de ces protéines qui ensuite ne peuvent plus se tordre. Imaginez un torchon humide que vous tordez, vous enlevez toute l'eau qu'il contient. Si vous avez le même torchon et que vous ne le tordez pas, l'eau reste à l'intérieur. Et bien, il se passe la même chose quand on sale une viande. Longtemps, on empêche le jus de sortir dans la cuisson, une grande partie du jus. Pour faire simple, c'est-à-dire que sur du bœuf, on perd à la cuisson en gros entre 15 et 18%. Quand vous salez longtemps à l'avance, c'est-à-dire entre 4 heures et 48 heures avant, vous perdez au moins deux fois moins, c'est-à-dire vous perdez sur une viande d'un kilo, vous allez perdre 150-180 grammes à la cuisson. Quand vous allez longtemps à l'avance, vous allez perdre 80 grammes, 70 grammes. Donc ça fait plus de la différence et de la juteosité.
D'accord. Et attends, je te remets. Ah voilà, avec nous. Donc on a Christine qui nous demande si c'est uniquement pour les cuissons longues. Bah non, tu viens de l'expliquer, hein. Même pour un steak.
Un steak, c'est exceptionnel. C'est pour tout. Pour tout. Christine, à partir du moment où, quand vous chauffez la viande, normalement, les protéines se tordent et vous perdez du jus. même pour un steak ou pour une bavette. Si vous la salez, une bavette, il faut la saler 2 jours avant, hein, parce que la coupe est parallèle aux fibres, donc le sel a plus de mal à pénétrer, mais plus longtemps. Mais vous expulsez beaucoup moins de jus. Donc vous avez une viande plus tendre et plus juteuse. Mais par exemple, je sais que je vais faire l'expérience chez un chef très connu, je ne citerai pas, 2 étoiles, très médiatique, et il ne voulait pas essayer. En fait. Il a dit, ne fais pas ça. Donc on est bloqué un petit peu dans des habitudes et des traditions qui font qu'on croit à des choses et qu'on n'essaye pas.
Ouais, mais tu sais, ça, je l'ai entendu vachement souvent. Hein. Moi, j'en ai discuté aussi avec des chefs hein, qui m'ont dit, mais non, mais c'est pas possible. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai travaillé chez machin. Et puis qui m'a dit, non, non, ça, c'est pas possible. Et tu veux pas bah, mettre en doute, par exemple, quelqu'un comme, voilà, bah, comme Paul Bocuse. Je dis ça au pif, hein, mais. Absolument, mais parce que je pense que ces gens-là sont d'une génération où la science, où on était assis aussi sur un savoir un petit peu souvent idiot. Moi, je m'en suis rendu compte aussi hein, bah, dans ma cuisine qu'on faisait des choses, mais qui servaient strictement à rien du tout, quoi.
Et en fait, les jeunes, quand ils sortaient du CAP, ils allaient faire des stages chez des chefs qui leur disaient « on fait ça parce que », sauf que le « parce que », dans 99% des cas, il est totalement bidon. Enfin, il ne change strictement rien. Et les choses se propagent comme ça, on répète des choses qu'on a apprises parce qu'un chef nous l'a dit, donc on continue à le dire. En fait, c'est la problématique de ce qu'on appelle la tradition et de la transmission. Parce ouais, que là, tout le monde dit « Ah ouais, non, mais c'est vachement bien, et on fait de la transmission. » Mais non, c'est con, parce que si la transmission est mauvaise, on continue à transmettre des informations qui sont fausses. C'est extrêmement mauvais, quoi. Une épaule d'agneau, 2 jours avant. 2 jours avant.
Bah ouais. Tiens, hop, là, il y a Carole qui nous met un petit commentaire. Alors, donc, Jean, ouais, bah, on t'a répondu 2 jours avant. Mais ouais, parce que moi, ce que j'ai remarqué avec les volailles, donc nous, on fait minimum 24 heures avant parce que bah, bien évidemment, des fois, on est un petit peu pris par le temps. Mais c'est vrai que j'ai fait des essais des fois jusqu'à une semaine avant. Et le résultat, c'est que la peau, elle est croquante. C'est un truc de malade, quoi.
C'est-à-dire que sur une volaille, la peau… Non, Christine, vous pouvez préparer. Ça peut rester salé 3 jours, hein, c'est pas un souci.
Ouais, là, ça peut rester. Ouais, il y a aucun souci. Hein. Il n'y a pas de risque qu'on soit en surdose de sel. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais remarqué. Parce que si vous mettez juste ce qu'il faut, non. Alors, attention, lorsqu'on dit mettre au sel, on n'a pas dit de mettre 25 cm de sel au-dessus et puis 30 cm en dessous. Hein. Arthur, on est bien d'accord.
Hein. Ouais, non, faut saler comme on salerait après cuisson. Enfin, on n'est pas là pour mettre énormément de sel, c'est juste légèrement comme on sale après.
Voilà. Myriam, bah, toi, tu viens d'un endroit quand même dans le monde où il fait très très froid. En tout cas, il y a des températures quand même très très extrêmes. Hein. Et je crois que votre nourriture, elle est quand même énormément, elle est beaucoup faite de viande et puis de protéines et de poissons. Est-ce que c'est quelque chose qui est important chez, voilà, je veux dire, et dans ta culture et dans ta façon bah, de faire à manger et puis de faire la cuisine journalièrement?
Oui, puis justement, de ce qu'Arthur disait, tu sais, par rapport à la tradition qui se poursuit, puis des fois, ben, on est peut-être un peu dans le mauvais chemin, mais on poursuit ça parce que, ben, en tout cas, le mauvais chemin, c'est une question de perception, mais tu sais, j'ai l'impression qu'au Québec, historiquement, le fait qu'il y ait des hivers très rudes quand même, là, on passe quand même l'hiver de moins 30 degrés Celsius à 30 degrés l'été facilement. Ben, tu sais, c'est quand même un gros écart. Donc, les gens se préparaient à passer l'hiver. C'était soit des pièces de viande, faire des réserves. Mais bon, qu'est-ce qui se conserve le mieux? Des patates, des carottes, des légumes quand même faciles. Puis j'ai l'impression qu'on a notre culture culinaire s'est beaucoup inspirée de ça, là. On n'a pas nécessairement de menus raffinés, tu sais, comme la France est reconnue pour l'être. Mais tu sais, là, je parle, mettons, avec une référence de vraiment le côté traditionnel québécois. Mais tu sais, c'est certain qu'aujourd'hui, le côté culinaire, là, il y a plein de. Wow, c'est effervescent, il y a tout plein de créativité, puis il y a des grands restos et tout ça. Mais vraiment, le côté culturel, là, un de nos menus, par exemple, un menu typique, c'est le pâté chinois, mais même là, avec le nom pâté chinois, mais qui est inspiré de quand le Canada a été colonisé, puis qui ont agrandi jusque dans l'Ouest, jusque vers le Pacifique, qui ont construit les rails de chemin de fer. Puis c'était, bon, des gens qui travaillaient pour ça. Puis c'est un petit peu comme un côté limite esclave, là, fait que ça prenait des repas qui soutiennent pour l'activité physique qu'il y avait à faire, mais en tout cas, je pense que c'est de là que c'est venu, si mon souvenir est bon, là, de l'histoire en arrière du pâté chinois, que c'est un plat tout simple, c'est du steak haché, du maïs en grains et des patates. Steak, blé d'Inde, patates, comme on dit. Puis c'est tout simple, mais c'est très, tu sais, des patates, il y en a quasiment dans tous les plats les comfort food, là, les plats réchauffants que grand-maman faisait. C'était très commun de manger juste des patates avec un steak, puis des petits légumes à côté, que carottes, mais souvent, viande et patates, c'était comme le plus fréquent. Puis aujourd'hui, ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même. Tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai eu ce régime-là jusqu'à ce que je m'intéresse à autre chose. Puis je m'ouvre à découvrir plein d'autres cultures. Puis mon cours, encore une fois, de naturothérapie qui m'a amené tellement de connaissances sur l'alimentation, puis sur un peu l'effet que ça a aussi, ce que je mangeais, puis de me rendre compte aussi que dans mon corps, bon, il y avait comme des douleurs qui apparaissaient parce que depuis plusieurs années à manger substances laitières, gluten, de la viande quand même beaucoup, puis des patates, tout ça. À un moment donné, c'est ça, j'ai comme pas eu le choix de m'intéresser à autre chose, puis de découvrir autre chose. Et aujourd'hui, c'est un peu ça aussi pour le futur, là, en tout cas, que j'essaie de déjà le mettre en place pour moi, ces changements-là, tu sais, intégrer plus de grains, plus de légumes, plus de fruits, de verdure, tout ça, tu sais, que ce soit plus vivant, puis ensuite, ben, que ça puisse rayonner pour que d'autres gens puissent s'en intégrer, là, c'est pour que justement, peut-être. C'est peut-être ce côté-là, dans le fond, c'est le côté expérimentation. Tu sais, il y a le côté un peu scientifique, OK, oui, mais de le mettre en pratique, tu sais, je le vois déjà que j'ai moins mal dans mon corps à mettre en pratique ça, de manger plus sainement. Puis j'ai l'impression que c'est là qu'on peut comme changer la donne, tu sais, de réajuster au lieu de toujours répéter, ben c'est bon pour la santé, il faut que tu manges ton bon steak pour souper, puis. J'aime bien cette notion-là là, de changer le cours des choses.
Oui, de toute façon, c'est évident que maintenant, on peut très bien vivre en mangeant moins de viande, hein. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'est ce vers quoi il faut aller, parce qu'on aura des élevages beaucoup plus vertueux, beaucoup moins intensifs. Et effectivement, bah, à nous, à la ferme de la Ruchotte, hein, c'est ce qu'on fait depuis très très longtemps, hein. Nous, de la viande, on est loin d'en manger une fois jour, hein. Des fois, on passe même des fois une semaine, quoi, sans en manger. On mange beaucoup d'œufs parce que les œufs, bah, c'est quand même vachement bien, hein. La poule, elle est toujours là avec nous, puis c'est un compagnon vachement sympa, hein. C'est tout un ensemble avec le jardin, il y a du recyclage et tout. La poule, l'œuf, c'est vraiment génial. Voilà, moi, je vous invite les uns et les autres à monter des petits poulaillers chez vous. On a Jean qui nous demande ce qu'on pense du sel de Maldon. Alors, moi, je vais donner mon avis de cuisinier. Le sel de Maldon, c'est vachement sympa, il est très bon. Bon, Après, moi, je travaille avec parce que c'est très simple. Je vais vous donner la raison qui est complètement con. C'est que j'ai juste à côté de chez moi, à moins de 10 km, le gars qui distribue l'Est. Donc, c'est hyper pratique. Je vais chez lui ou comme il vient manger chez moi vachement souvent, bah voilà. Donc, je travaille avec du sel de Maldon. La seule chose que j'ai remarqué qui est intéressant dans le sel de Maldon, c'est que il est moins salé, je trouve, que la fleur de sel de Guérande ou le sel du Sud, le sel de Camargue. Le sel de Maldon est un petit peu moins salé. Ce sont des cristaux qui sont très très agréables dans la bouche, je trouve. Arthur, je ne sais pas ce que tu en penses. Rien.
Moi, j'adore en fait le sel de Maldon, c'est une structure pyramidale. C'est hyper léger. Donc, si, pour un même volume de sel de Maldon et de sel fin, on aura beaucoup plus de sel dans le sel fin que dans le sel de Maldon. Il y a beaucoup d'air dans le sel de Maldon. Et c'est parce qu'il y a beaucoup d'air que les cristaux sont croustillants et même s'ils sont assez gros, ils craquent facilement. Après, je trouve que ça, quand on sert sur du sel de Maldon sur de la nourriture, on a cette croustillance qui est vraiment intéressante et qui réveille les papilles. Et d'un seul coup, on peut mieux ressentir le goût des aliments aussi. Ça, on peut jouer avec un contraste de texture qui est intéressant. Mais il existe aussi en Maldon fumé.
Ça, c'est pour
Christine,
toi.
ouais, en fait, ça, ouais, c'est-à-dire faut, oui, on respecte toujours un temps de repos avant dégustation. En fait, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, c'est pas que la viande se détende, c'est que au moment du repos, la température, d'abord les jus qui sont, enfin, la partie extérieure de la viande s'est asséchée à la cuisson parce qu'elle est montée en température beaucoup plus que le centre, donc elle s'est asséchée. Il y a du jus encore au centre, donc le jus va se redisperser un petit peu à l'intérieur de la viande. On va avoir aussi une température qui va s'uniformiser à l'intérieur. Et la viande, quand même, refroidir petit à petit au bout d'un certain temps. Et la myoglobine qui est à l'intérieur, enfin une partie des jus, va, en redescendant la température, va s'épaissir et s'écoulera moins qu'on coupera des morceaux. Voilà.
Super intéressant. Et au Québec, est-ce que c'est facile de trouver des bons légumes ou est-ce qu'il y a beaucoup de légumes qui sont importés? Parce que bon, alors, moi j'ai deux, trois adresses quand même de Superman du légume au Québec, de gens qui font des choses extraordinaires, souvent bien, bien mieux qu'en France. Myriam, raconte-nous un peu. Si tu arrives.
Je dirais que de plus en plus, il y a beaucoup de. Ben, comme l'année dernière, là, avec la pandémie, toutes les petites fermes, il y a vraiment le concept d'autonomie alimentaire là, qui a explosé. Puis ça fait place à plein d'initiatives là, auprès de petites fermes, c'est ça. Puis c'est ça, il y a de plus en plus une belle sélection de légumes qui sont offertes, puis de mieux en mieux conservés aussi, là, il y a mieux accès l'hiver. Puis il y a même le concept aussi de serres d'hiver qui sont comme soit souterraines ou ça aussi, ça fait des petits, il y en a de plus en plus. Mais sinon, tu sais, tout ce qui est, c'est certain que tout ce qui est orange, tous les agrumes, tous les fruits qui normalement viennent des pays plus chauds, on n'a pas, tu sais, c'est plutôt exporté, là, on ne peut pas vraiment cultiver ça ici.
Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de chasse hein, aussi hein, hein, chez toi parce qu'il y a des gros animaux et il y a des animaux qu'en Europe, nous n'avons pratiquement plus. Il y a beaucoup de pêche hein, aussi.
Oui, j'aurais tendance à dire peut-être un petit peu plus de pêche, c'est peut-être un petit peu plus accessible que la chasse. La chasse est quand même réglementée, puis bon, il n'y a quand même plus une abondance comme il y avait autrefois, là. Il y a eu des excès dans plusieurs domaines, puis autant la pêche, il y a des quotas maintenant, puis faut être vigilant avec la manière qu'on a de pêcher ou de chasser. Mais il y a un retour à ça que je constate de plus en plus, là, de revenir à de s'intéresser à d'où vient l'aliment, puis d'aller à la source, puis ensuite tout le processus de préparation, par exemple, aller chasser une perdrix, puis de tout plumer ta perdrix, la préparer, penser à ce que tu vas faire pour la cuisiner. Il y a un retour. Est-ce que ça se fait en même temps que tout ce retour un peu plus en conscience de ce qu'on mange, puis de d'où vient ce qu'on mange et tout ça, là? Mais c'est intéressant, ça aussi, de voir que ça change. T'sais, on est vraiment à une période de transition, je trouve, partout, là, collectivement.
Oui, oui, et puis tout ça, ça nous amène aussi à respecter un peu plus l'animal qu'on a dans notre assiette, ouais. Hein, de faire l'effort, faire l'effort de le plumer et puis de le préparer, et puis pourquoi pas de le mettre à mort aussi, hein, parce que c'est toujours bien facile hein, de se pointer dans une grande surface ou d'aller chez son boucher et puis d'acheter son steak. Si on disait à tout le monde, tiens, tu veux manger du bœuf, tiens, voilà un couteau, tiens, voilà le bœuf, il est là. Je pense que les gens pesteraient un petit peu moins sur le végétarisme, hein, peut-être.
C'est
hein.
Ça.
Ouais, parce qu'on a quand même vulgarisé tout ça. C'est ce qui est quand même triste, c'est qu'on a vulgarisé tout ça. C'est vraiment... on a un petit message de Rebecca. Ah, Rebecca, c'est notre amie du Québec. C'est notre amie du Québec qui est là ce soir avec nous. Et elle nous dit ouais, qu'il y a les petits et grands maraîchers. Ah oui, et il y a des magnifiques maraîchers. Hein. Il y a des magnifiques maraîchers au Québec, des gens qui travaillent extrêmement bien dans un pays très, très difficile où il fait très froid. Bon, alors, quand j'entends que chez nous, les mecs se plaignent parce qu'il fait trop chaud, un coup il y a trop de pluie, un coup il n'y en a pas assez, un coup il fait trop froid, allez faire du maraîchage au Québec et puis vous verrez quand il fait moins 30 hein, l'hiver. Alors, on a Jean, qu'est-ce qu'il nous demande, Jean? Hier, parti sur les viandes, il en profite que notre ami Arthur est là. Ton avis sur la cuisson des viandes rouges à basse température? Alors, moi, j'en fais un peu à la maison parce que j'ai ce qu'il faut. Je suis super bien équipé. Si tu le fais à basse température, il faut quand même un appareillage parce que ce sont des températures très précises. Moi, j'ai fait des essais, c'est super intéressant. Il faut une machine sous vide hein, aussi parce que ça marche quand même mieux. On peut enfermer des choses dans notre viande. C'est super intéressant. Alors, il faut trouver des sacs aussi sans trop de merde dedans parce que faire des cuissons dans du plastique, bon, moi, je suis pas trop pour. Mais une fois qu'on a tout ça et qu'on veut se lancer là-dedans, il y a des choses super intéressantes à faire. Il y a des cuissons longues super intéressantes. Moi, j'ai essayé avec du poisson, avec de la carpe, avec du brochet, avec du cendre. Et j'ai eu des résultats absolument sensationnels. Avec la viande rouge, ça marche bien aussi. On peut la cuire à 45 degrés, hein, par exemple, une côte de bœuf pendant une demi-heure. Et ensuite, on va la ressaisir dans une poêle. Ça marche vachement bien. Arthur ?
Non, mais c'est très, très bien parce qu'en fait, on ne monte pas trop fort en température. Après, sur la viande, il faut savoir qu'elle devient très mouillée et la faire dorer est un petit peu plus complexe qu'une viande cuite normalement. En fait. L'humidité a du mal à s'en aller. Alors, sur la côte de bœuf, là, je suis en train d'expliquer dans le prochain bouquin. Par exemple, je fais ça avec du rôti de bœuf et ça marche avec la côte de bœuf. En fait, je la fais cuire. Alors, je vais répondre à ta question, Mathilde, après. Je la fais cuire. Je la sors du frigo, je la mets une heure au congélateur et je la fais cuire direct. C'est à l'opposé de ce que disent tous les gens. Alors, pourquoi? Parce que l'extérieur, la surface de la viande, une fois qu'elle a passé une heure au congélateur, est très froide. La montée en température au moment où on la fait dorer est vachement ralentie. C'est-à-dire que l'épaisseur de viande trop cuite juste sous la surface est réduite au minimum. Alors, si on la met à température ambiante, la viande est déjà à 20 degrés, à l'extérieur est à 20 degrés, quand on la met dans une poêle à 180 ou 200 degrés, elle monte vite en température, elle monte vite à 60 degrés, ce qui est le niveau d'une viande pro-cuite. Si la viande, par exemple, sort du frigo, elle est à 5 degrés, et si elle gagne que 20 degrés ou 25 degrés, on est encore à 25 ou 30 degrés à l'intérieur, on est en dessous de la cuisson bleue. Donc, c'est vachement intéressant. Concernant la côte de bœuf, faut la sortir. Oui, là, on la sort du congélateur, c'est pareil, hein, ça ne change pas grand-chose. Faut la décongeler, faut la laisser décongeler doucement, et puis on peut la saler une journée ou deux jours avant. La problématique de la congélation sur la viande, c'est la rapidité avec laquelle elle se fait. C'est-à-dire que plus la congélation est lente, plus les cristaux d'eau, plus l'eau se transforme en cristaux et gonfle et explose les fibres. Donc, plus ça sera rapide, moins l'eau aura le temps de prendre du volume. C'est le principe des restaurants de sushi, genre sushi shop, c'est du poisson congelé, hein, c'est pas autre chose.
Ouais, c'est aussi à cause de ça que nous, dans la cuisine, moi par exemple, je suis équipé avec une cellule de refroidissement. C'est-à-dire qu'on met par exemple nos volailles de temps en temps au congèle et on fait ça, ça se fait très très rapidement. La cellule, elle va descendre à moins 35 en un petit quart d'heure, quoi. Et on a une congélation qui est ultra rapide, donc il n'y a aucune explosion des fibres.
Les fibres.
Ouais.
Ouais, c'est une question de rapidité. Après, tu peux encore augmenter la rapidité. Si, peut-être que dans ta cellule, il y a un ventilateur. Normalement, il y a des ventilateurs, ouais. Ce qui accélère encore le refroidissement.
Ouais. Je me demandais un truc, Myriam. Est-ce que chez toi, est-ce que vous utilisez la surgélation naturelle quand il fait très, très froid afin de garder votre viande, parce que bon, là, tu n'as pas besoin de frigo une grande partie de l'année, dit de congélateur.
Ben, c'est une bonne question. Je dirais que moi, je n'ai pas connu ça de ma génération, mais je sais que mes grands-parents, c'était beaucoup plus commun. Là, le frigo était à l'extérieur, faisait un trou dans le sol, puis tout un principe, ouais. Là, de frigo un peu passif. Mais moi, non, c'est. Puis même, l'idée m'est jamais venue. C'est. Ouais, je viens de prendre conscience de ça. Même si on a une bonne période de moins 20, je te dirais, c'est peut-être à cause que. Il y a souvent des écarts quand même. Fait que s'il fait un moins 30 une journée, peut-être 3 jours d'affilée, mais ensuite, ça va monter peut-être à moins 15, moins 20. Il y a quand même beaucoup d'écarts depuis les dernières années. Fait qu'on. C'est plus difficile là, de prévoir, OK, je peux mettre, tout l'hiver mes choses à l'extérieur. Ça serait plus ou moins faisable.
Mais alors, avant les années 50, hein, où les gens n'avaient pas de frigo, comment est-ce qu'ils faisaient? Moi, j'ai discuté une fois avec un monsieur qui était boucher. C'est quand je me suis installé ici, donc dans les années 2000, il prenait sa retraite et il me racontait que dans les années 50-60, il allait chez l'éleveur, il récupérait la bête, il allait jusqu'à l'abattoir. La bête, c'était lui qui la mettait à mort. Il nettoyait le camion avec un coup de jet, il remettait la bête dedans. Il allait jusque chez lui, il la découpait, il faisait des grosses pièces et tout se gardait à la cave. Jusqu'à un mois, sans frigo, et la viande restait nickel. Il y avait une croûte qui se formait autour. Et il m'a dit, à partir des années 70, les abattoirs modernes sont arrivés, on a lavé les viandes. Et à partir de ce moment-là, la viande ne se gardait plus du tout. Elle rassissait très, très mal.
Mmh. Ah, c'est en plein ça. Le contre-coup un peu de trop aseptisé.
Mmh. Alors Arthur, ouais, qu'est-ce que tu...
Peut-être que c'est aussi une question d'élevage, hein. Ça dépend des races, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des races qui racissent plus vite que d'autres. Enfin bon, ça dépend beaucoup de choses. Parce que la viande de bœuf, c'est comme la j'ai oublié le terme, c'est un. Le bœuf, c'est un quoi qu'on appelle ça? En fait,
c'est un bovin. C'est un ruminant.
Non, c'est pas ça. Voilà, c'est un ruminant. Donc, donc en fait, ce qu'il mange, contrairement à ce qu'on pense, n'a strictement aucune influence sur le goût de la viande. Ce qu'il mange n'a d'influence que sur le gras. Donc, c'est comme le
Donc,
bouton, s'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de goût
ouais,
pratiquement.
d'accord. Donc, le fameux bœuf de Kobe avec la bière et puis tout le cinéma, là,
Bah,
c'est de la connerie. On le
en
fait
fait,
souffrir
ouais,
pour
le
rien,
bœuf de
là, ce
Kobe,
pauvre bête.
non. Non, en fait, c'est une origine très particulière. C'est que le Japon, la géographie est très escarpée. Donc, on avait besoin de bœufs qui n'étaient pas très grands et qui pouvaient avoir une grosse réserve d'énergie. Et le gras, c'est une réserve d'énergie. C'est-à-dire qu'un kilo de gras, on a calculé que ça correspondait à peu près à un kilo d'essence pour une voiture. Donc, ce sont des animaux qui produisent énormément de gras qui leur servait à monter et à travailler. Après, on a fait des croisements au début du XXe siècle
Ouais.
avec deux ou trois autres races, mais il y a trois, ça s'appelle des Wagyu en fait. Contrairement à ce qu'on
Ouais,
pense, le
ouais.
Wagyu n'est pas une race. Il y a différents Wagyu et Wagyu, c'est un bœuf du Japon. Le bœuf de Kobe en est un, mais il y en a différents. Le bœuf de Kobe, c'est un des plus connus parce que Kobe est un port international et qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui arrivaient par là. Voilà, mais c'est un bœuf. Les Wagyu, c'est exceptionnel, c'est un gras incroyable, mais on peut en manger très peu. On mange 80 grammes, pas plus. Enfin, c'était déjà 80 grammes, c'était. Mais c'est absolument divin, c'est un truc de dingue. Mais ça se prépare
Ouais.
pas. Comme une entrecôte, ça se cuit très fin. D'ailleurs, souvent au Japon, on le fait cuire en tranches très fines sur des barbecues et pas du tout en gros morceaux. Alors maintenant, on a des Wagyu français, mais en fait, c'est pas du vrai Wagyu. Enfin, c'est la Normande, par exemple, la race normande est 1000 fois plus intéressante que le pseudo Wagyu français. Enfin, en fait,
Ouais,
le
ouais.
Wagyu qu'on élève en France, c'est un peu comme si on élevait du camembert aux États-Unis. Enfin, voilà, l'idée, c'est le principe, quoi. Donc, on est content, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'origine. Voilà.
Ouais,
Et
moi
les
je
viandes
suis assez
maturées,
d'accord avec toi.
pour en parler avec Jean Delot, mais on arrive au maximum, presque au maximum de ce qu'on peut avoir en 60 jours, à peu près. Les mecs qui font
Ouais.
maturer 8 mois, 9 mois, 10 mois. Bon, après, on gagne pratiquement rien, vraiment.
Est-ce que la viande maturée, c'est quelque chose qui se fait chez toi, Myriam, avec le gibier,
Ben, on
par
le pratique
exemple?
ben,
Ouais.
à petite échelle, on le fait avec le poisson, avec les truites là, que mon copain Cédric élève. Donc,
Ouais, ouais,
quand on
ouais.
en mange, là, souvent Cédric les prépare, il met un petit peu de sel. Tu sais, tantôt, j'écoutais, puis ça fait du sens, là, il met un peu de sel dessus,
Ouais.
question de juste
Ouais.
saler comme si on le faisait après cuisson. Il met ça au frigo. Puis ça a le temps, tu sais, même 2 3 jours là au frigo, fait que ça sèche un petit peu sur les bouts, puis pas une croûte nécessairement, mais juste pour dire que c'est séché, juste comme il faut. Puis après on le mange soit en tartare ou soit cuit, mais même en tout cas je trouve que c'est la meilleure méthode là, ça fait vraiment ressortir tout, ça garde une belle texture, puis ça fait ressortir une belle saveur du poisson. Fait que bon, c'est un peu à notre échelle ce qu'on fait comme viande qui a séché.
Ouais.
Mais sinon, ouais, c'est plus un sujet que je connais un peu moins peut-être par rapport aux viandes rouges. Je suis moins habituée à ça ici, là. Il n'y a pas nécessairement de spécialité qui me viennent à l'esprit, là, si il y a des entreprises qui vraiment se sont lancées là-dedans. Mais ce serait. C'est sûr, ça doit exister, mais. De ma connaissance, j'ai pas d'exemple qui me vienne.
Ouais, si, c'est sûr
Ben, c'était une
que
méthode
je
de
pense que ça.
conservation, hein.
Ouais.
Ouais.
Bah, de même que le froid. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose avec les grands gibiers, avec. Ouais. Non, non, c'est sûr.
Ouais. Comme tu sais, on est
Voilà, donc on
habitué
avait
le
Pascal, ouais.
prosciutto, tout ça, mais. Toutes
Alors,
les viandes secs, là, comme le
Fred, moi,
prosciutto,
je vais
le
devoir.
jambon de Bayonne.
Ah, mais c'est pas bon le
Oui,
jambon de Bayonne.
Arthur, tu.
Mmh.
Ouais,
Tu vois, chaud. En fait, le jambon de Bayonne, c'est un peu n'importe quoi. C'est juste. On a l'origine du nom, c'est qu'il partait de Bayonne, mais vraiment pas. Il y a plein d'autres jambons. bien meilleur. Mais je...
Ouais.
Je vais devoir
Donc,
vous laisser.
Arthur, je crois, ouais. Ouais, je crois qu'il va falloir que tu nous quittes car tu as tes devoirs conjugaux.
et des enfants.
Ouais, bah oui, oui, ouais. Eh bien, écoute, on va te faire des gros bisous et de toute façon, on va se revoir. On va se revoir un de ces quatre bientôt. Quand je suis sûr que tu vas m'appeler un petit peu là, bah, pour ton nouveau bouquin là. Hein.
On a encore beaucoup de travail.
Ouais.
Et on et va. Au revoir à Myriam et à Carole. Et puis j'espère
oui, au plaisir,
Arthur. Bientôt. Mm-hmm. Et bonne fin d'émission.
Oui, avec plaisir.
Bravo, Fred.
Ils disent merci.
Merci
Arthur, c'est super. Ouais, voilà.
Allez. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. Bon week-end.
Bisous, Arthur. Alors, on a Carole qui est revenue. Alors, elle me dit qu'elle a une connexion merdique. Ouais, et que ce n'est pas possible. Oh là 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 là, ouais. Ah là 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 là. Myriam, on va finir tous les deux.
C'est ouais. Petit live.
Ouais. Bah. Alors Arthur, tu vois, il est super intéressant parce que parce qu'il peut nous expliquer beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Ouais. Alors Myriam, raconte-moi un petit peu ce qui se passe. Ouais.
Ouais, parce que côté décalage, aller, oui, c'est ça, en même temps, puis là. Mais oui, avec Arthur, là, tu sais, pour rebondir un peu, c'est vraiment ça qui est passionnant, c'est d'aller jumeler le côté scientifique, le côté expérience et le côté un peu défaire les mythes. Il y a comme vraiment, c'est vraiment très intéressant, puis ça nous fait réfléchir, ça fait « ok, j'ai envie de tester ça, essayer autre chose ».
Ouais, c'est vrai qu'il met des mots sur des choses qu'on ne sait pas et qui peuvent être hyper intéressantes. Tu m'as dit là tout à l'heure, avant que tu sois en ligne, que chez vous, le printemps arrive. Est-ce que tu arrives à faire des ramasses de feuilles sauvages, de fleurs afin de te nourrir? Est-ce que tu penses que tu arriverais à manger uniquement des petites choses chez toi que tu ramasserais dans la forêt, parce qu'il y a des grandes forêts, il y a une nature qui est impressionnante quand même.
Ah oui, puis définitivement, ça fait un an et demi là, que j'habite en pleine forêt, là, et puis c'est vraiment quelque chose que je veux expérimenter de plus en plus. En tout cas, l'année dernière, là, le printemps dernier, ça a été wow. J'ai découvert plein de plantes. Je me suis acheté 2-3 livres, puis avec ça, je me promenais en forêt, j'identifiais. Puis ça, c'était vraiment... c'était facile à retenir parce qu'il y a vraiment un intérêt qui est là en moi puis que j'ai envie de nourrir. Puis c'est ça, cette année, là, j'ai envie d'aller encore plus loin là-dedans, essayer de peut-être faire un petit peu de conservation, d'avoir un petit peu plus pour l'hiver, là, me préparer soit des plantes séchées ou des fois en transformation, peut-être plus le côté herboristerie. Mais tu sais, je me rends compte qu'il y a vraiment, il y a clairement moyen de vivre juste en mangeant ce qu'il y a dans la forêt. C'est sûr, bon, ça penche quand même d'un extrême, là. Je pense pas que j'en arrive là un jour, mais quelques journées par-ci, par-là, tu sais, de juste me dire, OK, j'ai fait un bouillon avec, des plantes racines qui ont une saveur intéressante ou des feuillages, des pousses de sapin. Ben, tu sais, c'est quand même intéressant de se dire qu'on a créé ça avec ce que la nature nous offre en abondance.
Et puis, écoute, je pense que chez toi, tu peux aussi être inspiré par ce que les Amérindiens avaient et ont l'habitude de faire. On a Rebecca qui nous dit que les Amérindiens de la région, ils faisaient sécher les viandes et les poissons au soleil. Et on peut quand même imaginer qu'ils se sont nourris l'hiver, l'été, avec ce qu'il y avait sur place, hein.
Il était beaucoup plus en connexion, tu sais. J'ai entendu une comparaison récemment sur ce lien-là avec la nature, là, tu sais, de quelle manière on peut se réapproprier notre territoire, puis le mettre en valeur et tout ça. Puis bon, ça donnait un peu l'historique de comment la nature a été traitée jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est quoi un peu notre conception de, tu sais, le territoire, par exemple. Bon, ben il y a comme une notion de propriété privée, mais en même temps, pour moi, ça coince tout de suite. Là. Je me dis, c'est la nature. Il ne devrait même pas avoir de notion de propriété privée. Tu sais, il devrait juste avoir un gros bon sens de, on cueille ce qu'on a besoin. De toute manière, la nature est cyclique, ça revient à chaque année. On prend que ce qu'on a besoin dans l'année à venir. On fait nos réserves si on a besoin, mais que pour un an. Tu sais, l'été va revenir dans un an, puis on va pouvoir refaire. Tu sais, il y a comme cette notion-là de revenir au rythme naturel là, qui est intéressante à considérer, parce que quand on s'alimente au supermarché, bon, on a l'embarras du choix à chaque jour. On peut acheter des oranges en plein été, même si on sait que ça pousse plus en hiver dans les pays chauds. Tu sais, comme c'est ça, des fraises en hiver, mais ici, ça pousse l'été. Fait que, cette conscience-là là, de la nature.
Et ne jamais oublier une chose, vivre l'instant présent. Ça, c'est ce qui manque un petit peu. C'est exactement ce que tu disais là. Si tu fais les provisions juste pour une année, tu fais de la cueillette. À quoi ça sert de ramasser 25 kilos de champignons si tu n'es capable d'en manger que 5? Ça sert strictement à rien du tout. Voilà, il faut respecter cette nature qui peut nous offrir de la nourriture. Et toute l'année, vous savez... Vas-y, Myriam. Oui, c'est parce qu'on a un léger décalage. Voilà, tu sais. Donc,
le midi, là, la fraction de seconde Mais oui, j'allais ajouter, en fait, que, tu sais, par rapport aux Amérindiens, là, dans le fond, c'était le début de mon idée tout à l'heure, puis finalement, j'ai dévié, puis je l'ai oublié, mais le côté historique, tu sais, quand les premiers colons sont arrivés ici sur le territoire, les Amérindiens, ils se faisaient longtemps qui était là, puis il y avait déjà une synergie qui était créée avec la nature. Ils l'avaient fait, tu sais, les Amérindiens avaient fait fleurir la nature comme la nature les avait fait vivre et fleurir. Il y avait cette synergie-là qui était là, puis c'était peut-être tellement subtil que les colons l'ont pas... Ouais, exact, une symbiose, c'est vraiment le mot. Puis c'est peut-être une notion que les premiers colons n'ont pas nécessairement capté. Pour eux, il y avait un côté mercantile de si un territoire, on peut comme couper tout le bois, on peut ramener ça en Europe, on peut construire des bâtiments. Puis tout le côté richesse aussi, ça aussi, c'était très intéressant dans la conférence que j'ai écoutée la semaine dernière. C'était, dans le fond, la nature, là, la forêt, c'est un petit peu comme tellement l'inconnu. C'est là où il y a des loups, c'est là où on ne voit pas trop loin, il y a plein de branches. Puis là, d'arriver, couper des territoires comme ça de forêt, d'abondance, pour faire des prairies de culture, ben là, on se sent en sécurité, on voit au loin. J'aimais bien ce côté-là, là, de le côté, comment décrire, un peu culturel et social, là, de l'approche de comment on peut percevoir la forêt. Pour revenir là aux Amérindiens, bien, c'est ça, il y avait cette présence-là du moment présent, puis de, tu sais, si tu cueilles une plante, bien, tu lui demandes la permission, puis tu le sais, moindrement que tu es attentif, tu sais que c'est pas cette branche-là que tu vas prendre l'autre, parce qu'elle est prête, puis même elle va être facile à couper, elle va être facile à prendre, parce qu'elle va savoir qu'elle va avoir une espèce de nouvelle mission. C'est ça, c'est sûr, c'est des termes d'humain, là. C'est comme si on pensait que la vie a une fin, puis que c'est comme cette plante-là est morte parce qu'on l'a cueillie, mais non, elle a une nouvelle mission, c'est de nous nourrir, puis ensuite, elle va être autre chose. Puis, ça tourne, c'est la vie. Mais ce côté-là des Amérindiens, je pense qu'on a tout intérêt à revenir à ça. En tout cas, s'y intéresser, puis essayer de le mettre en pratique. Quand on va se promener, que ce soit même une balade en ville, d'observer les plantes, puis de se rendre compte que, il y a du mouvement dedans, il y a de la vie. Ouais, tout à fait.
Ouais. Mais tu sais, je crois qu'en Europe, on avait ça aussi, hein. parce que les Celtes ont énormément de similitudes avec les Amérindiens, hein, mais c'est quelque chose qu'on a complètement oublié parce qu'on a pris l'habitude, voilà, de prendre, de prendre, de prendre, de ne rien demander. Et malheureusement, maintenant, tiens, voilà, hein, on pourrait parler de ce qui nous arrive, de ce qui nous arrive en ce moment. Alors, les gens qui sont en conscience, voilà, arrivent à réagir et arrivent à emmener tout ça vers une énergie très positive. Mais par contre, ceux qui n'ont que la conscience du matériel, ceux-là, ils sont très mal. Ils s'appuient sur le vaccin, ils s'appuient sur des choses complètement décentrées et désancrées surtout. Et du coup, ça nous amène à des réactions très agressives. Hein, on le voit sur les réseaux sociaux, hein, souvent, où les gens, on ne peut plus aborder le sujet du vaccin sans se faire lyncher. Voilà. En gros, si tu refuses d'être vacciné, ce qui est mon cas, moi je ne me ferai jamais vacciner, en gros, tu mets la société en danger. C'est à cause de toi que. Merde, moi, qu'on me dise que c'est à cause de moi que le Covid est là. Non, alors là, vous pouvez tous aller vous faire voir. Hein. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que c'était très vilain. J'ai dit, allez vous faire enculer. Bon. Ah merde, je l'ai dit. Mince, je l'ai encore une fois. Ah, je suis désolé. Oui, bon, donc voilà. Hein, être en conscience en face de tout ça, de tout ce qui nous arrive, réfléchir un petit peu, changer ses habitudes alimentaires, parce que tout ça nous arrive là maintenant, parce que on consomme comme des cons et que on aurait consommé un petit peu mieux, respecter un petit peu mieux le vivant qui nous entoure, on n'en serait pas là maintenant, les amis, ça c'est sûr. Eh oui. Alors. Respect de choix, oui, absolument. Merci Christine. Voilà, moi je n'ai rien contre ceux qui veulent se faire vacciner. Simplement que voilà, il faudrait réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Et puis si on a envie de se faire vacciner, il faut en connaître les conséquences. Et puis qu'est-ce qui risque de se passer, hein? Il y a des théories qui arrivent de grands scientifiques qui nous explique que ce vaccin, en gros, il a été mis au point par des gens très très intelligents et qu'il nous couperait de la conscience globale. Voilà, vous pouvez méditer, vous trouverez plein de trucs de partout. Et attention, hein, c'est pas par des charlots, hein. C'est par des grands grands scientifiques qui nous racontent des choses absolument effrayantes sur ces vaccins. Donc bon, voilà, si on a envie d'enlever les liens qui sont entre nous, il faut aller se faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Les conséquences dans un monde futur, elles seront désastreuses. On a l'ami Gilles Lartigot, hein, qui parle souvent de ça. Allez jeter un petit coup d'œil là sur sa page, là sur Patreon. Et puis vous verrez, il a débattu de nombreuses fois là-dessus. Le vaccin, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Chez toi, Myriam, là, le vaccin, là, ça se passe, les gens se font vacciner, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, ben pour être honnête, on ne suit pas trop les nouvelles, moi et Cédric, là. On dirait que c'est ça qui fait qu'on se porte bien parce que sinon, c'est
Ouais.
tellement anxiogène et
C'est ça.
c'est juste, moi, on dirait que je n'ai pas envie d'en entendre nécessairement parler. On n'est même pas au courant. Je sais que ça bouge beaucoup. Il y a des régions du Québec qui sont en zone jaune, orange, rouge, selon le nombre d'hospitalisations qu'il y a. Ça bouge quasiment aux 2 semaines. Dans le fond, il y a certaines personnes, il y a beaucoup, je te dirais même la majorité, qui s'accrochent à ça pour essayer de, OK, on attend qu'est-ce que le gouvernement va dire, mais tu sais, c'est des
Ouais.
annonces à chaque 2 semaines. Hey, je peux m'imaginer à quel point ça. Tu sais, quand tu es toujours en attente de quelque chose, puis il y a comme de la colère qui se développe, puis ça fait remonter ta liberté est brimée. Tu dis, je peux pas sortir, je sais pas si je peux sortir. En tout cas, ça fait vraiment remonter plein de choses. Pour plein de personnes, c'est à différents niveaux. Pour moi, je dirais que personnellement, ça m'a fait retourner vers qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis j'ai toujours la phrase qui me trotte dans la tête, là, c'est faire qu'est-ce qu'on a envie parce que c'est ce qui rend en vie. Puis ça, c'est à chaque fois que j'ai un choix à faire, je me dis, est-ce que j'en ai envie ou est-ce que je le fais? Puis je me dis, oh, je le fais parce qu'il faut que je le fasse ou je le fais pour quelqu'un d'autre. Maintenant, là, il y a comme un... Ah, oh, ça bloque tout de suite, puis ça se fait plus fluidement d'aller vers ce que j'ai envie. Puis je pense qu'elle a la clé de retourner à qu'est-ce qui nous rend heureux, puis qu'on a le sourire dans le visage quand on fait ça, puis on a envie de partager, puis d'être comme des enfants quand on s'amusait avec nos amis du quartier, puis de dire « Hey, est-ce qu'on va, on s'en va se promener dans la forêt aujourd'hui, on va aller faire du vélo? » Puis de juste être là, puis de s'amuser, puis de parler, de penser à un monde meilleur pour demain, de lancer plein d'idées.
De ressentir.
Ouais, ressentir, oser exprimer les choses quand on n'est pas bien, si on est bien. Tu sais, il n'y a pas de honte à être pas bien ou d'être bien. Des fois, on n'ose même pas dire quand ça va bien, parce que comme là, en ce moment, ça va tellement mal partout. C'est ce qu'on a comme idée aussi, fait qu'on le crée. Mais des fois, ça va bien, puis on n'ose pas le dire parce qu'on se dit les autres vont peut-être être jaloux. Tu sais, il y a comme, c'est comme si on n'avait pas le droit, on n'était pas légitime d'aller bien. En tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir à plein de sujets qui sont tous reliés là, à se remettre en question qui on est. L'introduction de départ, c'était un peu ça. Tu sais, je suis qui, moi, aujourd'hui? OK, oui, j'ai un passé, j'ai fait plein d'expériences, j'ai fait plein d'études, j'ai eu quelques expériences de travail. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de quoi? C'est quoi qui m'anime? C'est quoi qui... Ben, ça se redéfinit. Si c'est vraiment chaque jour, ça bouge. Un avant-midi, je peux avoir envie de telle chose. Puis l'après-midi, non, j'ai plus envie de ce que j'avais envie l'avant-midi. Puis je fais autre chose. Puis c'est comme ça. Je pense que c'est cet accueil-là, cette bienveillance-là là, envers soi, tu sais, ça se travaille, c'est comme un muscle, j'ai l'impression. Même moi, ça me fait beaucoup travailler. Des fois, j'ai de la difficulté à m'écouter puis à aller vers ce que j'ai envie. Puis, mais je pense que la clé est là.
Eh bien, moi, je vais vous donner un petit conseil, les copains. Si vous avez envie d'être lobotomisé, eh bien, regardez bien, bien la télé et vous verrez, ça va, ouais, là, ça va bien, bien marcher. Vous n'allez plus réfléchir à rien, vous allez penser à ce Covid tout le temps. Il faut en profiter pour rebondir, pour créer des choses. Regardez, moi qui suis cuisinier, me voilà en train d'animer une émission sympathique les vendredis soirs qui est bien suivi. Moi, je suis content. Il y a pas mal de monde tout le temps. On a à peu près 60-70 gens qui sont avec nous tous les vendredis soirs, plus ceux qui regardent après puis qui me font des retours en me disant que c'est sympa. Alors au départ, c'est vrai que on parle un petit peu de cuisine, de choses diverses, et puis à la fin on parle un petit peu plus de spiritualité parce que ça nous intéresse aussi un petit peu, et puis que c'est complètement en lien, bien sûr, avec la cuisine, avec l'aliment, parce que l'alimentaire, ça nourrit le corps, mais ça nourrit l'esprit hein, aussi. Si on mange bien, on a un esprit qui travaille bien. Tiens, on a John qui me dit, nous, on ne regarde plus la télé. Bah, écoute, toi, tu as bien raison. Mais alors John, lui, je sais ce qu'il fait. Hein. Il passe son temps avec Gilles Lartigot et puis avec la ferme de la Ruchotte parce que bah du coup là maintenant il suit tous les cours de cuisine et tous les trucs. Bon c'est une saine occupation du soir, je pense. Et moi, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire de plus là ce soir, que j'ai été très très heureux avec mon amie Myriam, qui nous manque beaucoup, et le Québec qui nous manque, parce qu'on y est allé voir notre amie la louve chamane, Rebecca, il y a 2 ans, on a passé un moment extraordinaire, et on s'est retrouvé avec mon copain Cédric, qui nous a présenté Myriam. Cédric, c'est le fils de mon meilleur ami, et qui est parti vivre au Québec il y a des années. Il est parti faire un petit peu sa fin d'études là-bas, il n'est jamais rentré, si bien que maintenant, il a même l'accent québécois, le bougre de Cédric. Alors lui, il travaille dans les petits poissons, voilà, il est en train de monter son entreprise là. Bon, je pense que je l'inviterai un de ces quatre, mais bon, il parle moins que toi hein, quand même. Quand même, Myriam, là, ça va être un petit peu compliqué hein, pour le faire parler. Hein, il va falloir aller le chercher.
Quand c'est un sujet qui le passionne, hein, il peut vraiment déblatérer longtemps. Mais ouais. Si tu lui parles de poisson ou de pêche, là, c'est sûr que ça va l'intéresser beaucoup. Cuisine aussi.
Ah ouais.
Ou de musique. Musique aussi.
Ouais. Parce que ça, c'est un sujet super intéressant. La pisciculture, c'est vraiment très, très intéressant. Lorsque c'est bien fait, et puis les poissons, de comprendre leur habitat, tout ça, c'est une nourriture super intéressante. Hein. Moi, là, le poisson, c'est quelque chose que j'adore. En plus, ces poissons d'eau douce, c'est super bien parce que nous, on est à l'intérieur des terres. Évidemment que le poisson de mer, c'est super bon, mais est-ce que ça a du sens lorsqu'on est à l'intérieur des terres, le poisson d'eau douce, ça a, à mon sens, beaucoup plus de sens. J'ai dit deux fois sens, bon, c'est pas grave. Donc, on a passé un super moment. Les amis, je pense qu'on va se laisser là. Ça fait déjà un peu plus d'une heure et demie. On a encore débordé de plus de 30 minutes sur ce petit live du vendredi. Myriam, on va se dire au revoir. Tu vas rester, ne raccroche pas. On pourra discuter un petit peu après, quand j'en aurai fini avec le live. Reste avec moi. Et je vous embrasse tous. On va se préparer un petit cours mercredi soir, un petit live en cuisine. J'espère que vous serez nombreux. Si vous avez envie qu'on fasse quelque chose de bien précis, faites-moi un petit retour sur la page de Patreon dans les messages que je vais regarder régulièrement. Et puis, vous me dites, on a envie de faire ça. Sinon, moi, j'ai des idées. Hein. Moi, j'en ai plein. Hein. Ça, c'est sûr. Mais si vous avez envie de faire quelque chose de bien, bien précis. Alors, Jean m'a rapporté l'autre jour. Il m'a dit, oui, Fred, c'est super. Mais des fois, tu pars un petit peu trop de tous les côtés. Ah, oui. Mais ça, c'est Fred dans sa cuisine. Moi, je suis quelqu'un qui aime m'exprimer dans ma cuisine. Je suis très, très instinctif. C'est-à-dire que les choses changent. Elles changent au fur et à mesure que j'ai envie de les faire. Et je suis désolé si des fois, c'est un petit peu brouillon. Comme l'autre soir, je vous ai montré à faire une sole, à lever une sole. C'était des soles. Attention, oui, parce que je viens de dire qu'il n'y a pas de poisson de mer. C'était des soles qui m'ont été rapportées par ma chérie, qui est allée jusqu'à Calais, dans le Nord, et elle en a profité pour acheter quelques soles et me les ramener. Voilà. Donc, elles ont fait le voyage avec elle. Donc, j'ai montré cette petite recette des soles. Ça m'est venu en une fraction de seconde. Je me suis dit, tiens, on va essayer de faire les soles. Bon, voilà. Vous savez que je vais vous préparer le cours sur le pâté croûte, hein. Un super cours. Pour le moment, j'attends encore un petit peu parce que les cochons nous manquent là encore. Mais j'ai trouvé un abattoir et on va faire un abattage de cochons incessamment sous peu. Et je vais avoir de la viande pour pouvoir vous faire un cours sur le pâté croûte. Donc, on fera ça en trois fois, je pense. D'abord sur les pâtes, ensuite sur le montage du pâté croûte. Sur la farce. Et ensuite sur le montage, et enfin sur la cuisson. Et vous verrez, ça sera super intéressant. Vous pourrez faire vos pâtés croûtes chez vous. C'est ultra simple, c'est uniquement de la maîtrise, la technique. Donc il faut en faire après, il faut un petit peu de matériel aussi. Mais c'est génial, je vous montrerai aussi à en faire avec des légumes 100% végétal. Parce que ça, vous savez hein, que ça m'intéresse beaucoup hein, aussi de faire, des cours sur végétarisme, mais non, sur une alimentation sans protéines animales, parce que végétarisme, véganisme, tout ça, ça nous fait plus chier qu'autre chose. Hein. Mangeons ce que nous avons envie de manger et soyons responsables dans notre alimentation. Je vais vous laisser là-dessus. Ah si, je vais quand même vous remettre un petit coup de musique comme ça. YouTube va pouvoir me couper comme d'habitude, hein, parce que ça, ils aiment bien. Hein, voilà. La dictature américaine Ouais, toujours. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais vous passer? Bon, on était dans le Scorpion. Tiens, je vais vous passer un morceau de Scorpion un petit peu plus récent. Alors, ça va. Alors, moi, j'aime bien. Voilà, c'est sympa. Et ça va bien clore notre discussion. Parce que ça s'appelle Humanity. Voilà. C'est un album, je ne sais plus, des années 2000, je crois. Alors, va savoir pourquoi ça ne marche pas. Hein. Allez. Si je mets du son, là, ça marche mieux quand même. Hein. Allez, je vous embrasse tous. Et je vous dis à
mercredi. Humanity, auf Wiedersehen, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies. The angel cries. Humanity, it's au revoir to your insanity. You sold to feed your vanity, your fantasies and lies. You're a drop in the rain, just a number, not a name, and you don't see it. You don't believe it. At the end of the day, you're a needle in the hay. You're saying it's even, and now you gotta be with it. Humanity, humanity, goodbye. Goodbye. Be on your way. Adios, amigo. There's a price to pay for all the egotism games you played. The world you made is gone.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager avec votre famille et vos amis et à interagir avec nous lors du prochain live sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Patreon pour accéder à plus de vidéos en exclusivité. Et surtout, retrouvez-nous en chair et en os à la ferme de la Rechotte, à Bligny-sur-Ouche. À bientôt.